mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 30 mai. Aujourd'hui, on va parler d'une grève des femmes de ménage d'hôtels 4 étoiles. Ça devient une tradition, mais cette fois-ci, c'est à Marseille et c'est à l'approche des Jeux Olympiques. On va aller faire un bon tour en Nouvelle-Calédonie avec cet article, cette enquête choc révélée par Mediapart sur ce qui se passe du côté des milices de ces fameux voisins vigilants qui protègent leur quartier avec des armes lourdes et a priori les yeux fermés de la part des autorités sur place. Et on va venir aussi sur le procès qui se tient en ce moment même, enfin qui s'est tenu il y a deux jours mais qui va être continué à discuter sur les problèmes des PFAS. Vous savez, c'est polluants éternels et c'est dans la vallée du Rhône qu'on ira. Et enfin, on fera un petit tour du monde sur l'état des lieux, sur la censure, les arrestations ou les persécutions de toute la communauté LGBT dans le monde avec un nouveau rapport qui vient de sortir. Avant cela, un petit mot pour vous faire part d'une pétition qu'on a reçue via mail sur la boîte de Radio Escapade et qui nous vous informe qu'une pétition du côté de Quissac est lancée par rapport aux inquiétudes des ouvertures de classe l'année prochaine en maternelle, l'école maternelle Alice Brun. Il est prévu pour cette rentrée septembre 2024 une moyenne de 30 enfants par classe. Pour l'instant, c'est à la mi-mai donc que ce chiffre est avancé. Les parents d'élèves et enseignants, bien évidemment, s'inquiètent de cette situation, car en plus, ce chiffre ne tient pas compte des inscriptions à venir. Il y a toujours des dossiers d'inscription déposés durant l'été qui viendront certainement augmenter les effectifs, à savoir que la moyenne nationale est de 24 élèves par classe, et là, on en est à 30, une situation que, visiblement, l'Académie souhaite voir rester comme ça. Même avec tout l'investissement et la bonne volonté des enseignants et des ATSEM, nous dit le texte de cette pétition, 30 enfants minimum par classe, c'est beaucoup trop pour assurer des apprentissages de qualité. Ce sont donc les représentants des parents d'élèves, RPE, et les parents d'élèves de l'école maternelle Alice Brun de Quissac qui se mobilisent via cette pétition pour relayer leur inquiétude et tenter d'être entendus auprès de l'éducation nationale. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, les aider en allant sur le site change.org pour apporter vous aussi votre petite signature en bas de la pétition. On part à Marseille où des femmes de ménage d'un hôtel 4 étoiles se mettent en grève, donc à l'approche des JO. Ces femmes, employées en sous-traitance, comme c'est le cas en général dans le secteur de l'hôtellerie, par l'hôtel Radisson Blue, eh bien, ces femmes de ménage réclament une prime estivale et de meilleures conditions de travail. À l'approche des Jeux Olympiques, les mouvements sociaux se multiplient, hein. Et ce sont donc ici à Marseille ces femmes de chambre de cet hôtel 4 étoiles situé sur le Vieux-Port qui ont lancé une grève reconductible. Elles réclament donc de meilleures conditions de travail et une prime pour l'été alors que la saison touristique s'annonce très chargée. Depuis ce samedi 25 mai, elles tiennent donc un piquet de grève tous les matins devant l'entrée de l'hôtel au rythme d'un concert de casseroles. Ce lundi 27 mai matin, les femmes de chambre ont aussi brandi des pancartes avec sur l'une d'elles la mention « On n'a pas que des obligations, on a aussi des droits ». Elle dénonce notamment les déplacements dans des hôtels aux quatre coins de la ville qui sont imposés par le prestataire Aqua, ça c'est l'entreprise qui les embauche. À chaque fois, dit-elle, ils nous déplacent dans un autre hôtel, on doit prendre les transports. Saadi, qui témoigne, qui est une femme de chambre depuis un an, dans ce cas, se dit épuisée par les changements de planning et de lieu de travail, toujours parfois à la dernière minute. Elle dénonce les journées à rallonge, où elle doit faire plus d'heures que prévu dans son contrat. On est des esclaves, ils ne nous respectent pas. Comme on travaille dur, on n'arrive même pas à profiter de nos enfants, on n'a pas le temps de vivre, déplore ainsi cette femme de chambre en grève. Les heures supplémentaires, les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées, ajoute une autre femme de chambre, Maria, Elle sait que le rythme sera donc intense cet été avec les Jeux Olympiques et que les tâches se multiplient, mais les salaires ne bougent pas, dit-elle. Tout ce qui compte pour eux, c'est de faire des économies par-ci par-là, mais ces économies sont faites au détriment des femmes de chambre. On s'est dit qu'on allait se lever pour se battre et pour défendre nos droits, exiger qu'on nous paye les salaires qu'on nous doit. Les femmes de ménage mènent ce combat sous les yeux des clients de cet hôtel, hein, alors que certains touristes glissent quelques pièces dans la cagnotte de grève, une caisse de grève que vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver en ligne. Et on leur souhaite eh bien, d'avoir autant de persévérance et surtout de résultats que les femmes du groupe Accor à Paris, qui avaient fait grand bruit à l'époque, et dont une d'elles, Rachel Keke, est maintenant députée, je crois, chez les Insoumis. Et puis on reste dans un volet pas très loin de celui de la colonisation, puisque les conditions dans ces hôtels de luxe se rappellent très souvent des pratiques plutôt du 19e siècle. On part donc en Nouvelle-Calédonie avec ce reportage, cette enquête révélée par Mediapart, où on lit qu'au cours des révoltes justement qui ont lieu ces dernières semaines, des habitants armés ont été soutenus par la police. Selon différents témoignages donc, et documents recueillis par Mediapart, des habitants d'origine européenne, souvent armés, bénéficient, et ce malgré le délit d'attroupement armé qui existe, du soutien des autorités, en passant même parfois des deals avec la police. Le cabinet du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pour l'instant refusé de répondre aux questions des journalistes de Mediapart. On y lit par exemple que dans un compte-rendu rédigé à l'un de ses collègues, un policier qui participe aux opérations sur place rapporte que tous les quartiers sont protégés par les résidents qui ont érigé des barrages. Il le justifie parce que l'État, dit-il, n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de la population. Les résidents assurent eux-mêmes leur propre sécurité en constituant des milices. Et donc aucune intervention n'est prévue pour interpeller ces citoyens armés. Au contraire, s'appuyant sur ses habitants, le policier toujours explique qu'il peut ainsi prioriser les personnes en détresse. Un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui est en lien avec plusieurs policiers présents sur place à Nouméa, lui ne mâche pas ses mots face à la situation qui l'inquiète. Les policiers, dit-il, s'appuient sur des barrages constitués de citoyens dits vigilants. C'est ultra dangereux. Compte tenu des sous-effectifs sur place, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Il constate que l'arrivée des renforts n'a rien changé et déplore quant à lui qu'il n'y ait plus de respect de la loi sur un territoire encore très colonial. Le haut-commissaire de la République, lui d'ailleurs, ne s'en est pas caché dans cette dernière déclaration. Il a reconnu l'existence de ces milices, hein, c'est le mot utilisé, dont certains des membres sont des assassins. Et il leur a néanmoins tendu la main en précisant « Je sais que dans certains secteurs de l'agglomération de Nouméa, des groupes de protection, des groupes de voisins vigilants, se sont mis en place. Que ces voisins vigilants restent là où ils sont. Je sais que c'est un réflexe de protection qui correspond aux attentes de la population des différentes communes de l'agglomération. Au fur et à mesure que les renforts arrivent, ces relais viendront prendre la place de ces voisins vigilants. » Ça, ce sont donc les mots du haut-commissaire de la République, qui reconnaît donc la situation sans s'en offusquer outre mesure. Un résident sur place, qu'on appellera Alexandre dans cet article, évidemment les noms ont été changés, âgé de 32 ans, et participe à ces barrages, il a donc discuté avec les journalistes de Mediapart. Il confirme donc qu'il y a bien ce qu'il appelle des deals passés avec la police. Nous assurons la sécurité à l'entrée des quartiers, et il s'occupe du reste, par exemple, des personnes en détresse, dit-il. Même formulation pour ces fameuses personnes en détresse, faudrait voir de quoi il s'agit. Embarrassé par l'existence d'armes sur les barrages, hein, toujours cet Alexandre craint l'engrenage de violence que cela peut engendrer. C'est un miracle, dit-il, qu'il n'y ait que 7 morts. Il y a beaucoup d'échanges de tirs et on ne va pas se mentir, nous ne sommes pas des citoyens pacifistes. Tout le monde est surarmé. Néanmoins, pour ce qui est de ce premier barrage, qui est relaté ici dans l'article, les groupes d'habitants qu'ont pu rencontrer, donc les journalistes prennent bien soin de dissimuler des armes trop dangereuses et de tempérer une image trop va-t-en-guerre. C'est d'ailleurs un mot d'ordre qui est diffusé par ses sympathisants loyalistes dans un message qui a été transmis par téléphone à des groupes d'habitants vigilants. Le journal Le Monde a publié le compte-rendu de ce message. Il dit ceci. « Nous venons d'être prévenus que des médias métropolitains sont présents et vont tourner dans nos quartiers. Donc, s'ils passent du côté de chez nous, faites en sorte, s'il vous plaît, de ne pas exhiber, voire de cacher les armes, sabres et autres objets dangereux. Si vous acceptez de parler, évitez absolument les termes belliqueux ou les commentaires perso pouvant laisser planer un doute sur le fait que nous soyons pour le vivre ensemble. Privilégiez les termes voisins vigilants, citoyens pacifistes, protection de nos familles et de nos maisons, etc. » Voilà, le commentaire en dit long, déjà, parlant du le fait de laisser planer un doute sur le fait qu'ils sont pour vivre ensemble. Toujours dans le sud, à la frontière du quartier de Motorpool et de Touban, donc toujours au sud de Numea, un autre barrage au rond-point de Michel-Ange. Ce barrage existe depuis le 13 mai et il est tenu par plusieurs habitants armés de fusils de chasse. Et il y a aussi d'ailleurs un AR-15, c'est un semi-automatique, apprend-on. Et c'est un autre témoin sur place, âgé de 32 ans, qu'on appellera Bertrand, qui explique tout cela. Il connaît bien les armes puisqu'il est lui-même ancien militaire. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé à Nouméa avec son épouse et leur enfant. Et il a par exemple fonctionné. Il a été par exemple sur des opérations au Mali. Il s'inquiète, lui, de la tournure très raciste et dangereuse de ce qu'il préfère qualifier des milices, car dit-il, on ne peut pas parler de voisins vigilants. Et ça émane donc de la bouche d'un militaire français. Certains de ces habitants, dit-il, qui ont pris la tête de l'organisation du barrage, se disent être d'anciens militaires, mais je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ils sont armés, vêtus de treillis, cagoulés, et ont pris soin de masquer la plaque de leur véhicule. Et d'ailleurs, dit-il, sur le barrage, chacun a une tâche bien définie. Le chef de groupe, les tireurs, ceux qui ont un fusil, les lanceurs de cailloux, deux cocktails Molotov. Il y a des rotations sur le système des cars pour se relayer sur le barrage. Tout cela alors que même que c'est, vous l'aurez compris, complètement illégal. Et ils ont eu donc en plus le soutien de la police qui est venue les féliciter et qui n'a même pas confisqué les armes. Les policiers ont demandé de les rendre moins visibles. C'est donc toujours le même militaire, ancien militaire, qui est lui-même donc consterné par cette situation. Les premiers jours, dit-il, il y avait eu plusieurs réunions avec un gendarme et un policier municipal. Il leur donnait des infos sur les opérations. S'il accepte aujourd'hui donc de témoigner pour Mediapart, c'est qu'il a peur de l'extrême violence et du racisme exacerbé de ces milices, ce sont ses mots. Ceux qui tiennent ce rond-point ont déjà agressé un jeune qui avait fait des courses. Il rentrait chez lui à vélo et au moment où il a voulu passer, 3 habitants lui sont tombés dessus et l'ont plaqué au sol. Son seul tort, il était noir. Il n'y a plus de limite et ils le font en toute impunité. À sa connaissance, toujours, aucun des habitants de ce quartier n'a été agressé physiquement. Et on ne peut pas dire la même chose des Kanaks qui sont morts ou blessés. Les jeunes émeutiers, qui ont environ 13 et 15 ans, brûlent souvent les voitures. Et son quartier est loin d'être le plus menacé. Il préfère donc aussi, lui, garder l'anonymat pour cet article, pour éviter d'ailleurs que les membres de ses milices ne s'en prennent à sa famille ou à lui. C'est très inquiétant, le soutien du haut-commissaire, et donc de l'État, à des groupes armés qu'il nomme « voisins vigilants ». L'un des responsables du poste de commandement sur place était d'ailleurs un élu loyaliste, Gilles Brial, qui était deuxième vice-président de la province sud, et explique une des personnes sur ce barrage. Ce responsable a chapeauté l'organisation du barrage lui-même au tout début des affrontements. Donc un des officiels qui était même présent dans l'organisation de ces groupes miliciens. Ces barrages tenus par des habitants dont certains sont armés sont illégaux. 3 Kanaks ont été tués par des habitants armés. Nous assistons impuissants à la faillite de l'État. Ce sont les mots d'une magistrate qui a été aussi entendue dans cet article. Elle travaille au tribunal de Nouméa. Selon elle, 80% des barrages sont inutiles dans les quartiers sud, qui ne sont pas menacés. Mais c'est une réaction viscérale. Les habitants ne risquent pas de se faire agresser. Ce sont plutôt les magasins qui sont visés. Ces groupes d'habitants se rendent et donc auteurs du fameux délit d'attroupement, hein, dès lors qu'il y a soit des personnes armées, soit des armes à proximité immédiate, donc prêtes à servir. Mais la police n'interpelle pas les habitants d'origine européenne, dit-elle. Elle a même tendance à s'appuyer sur ces comités informels. Et pour clore, voilà ce constat assez attristant, elle rappelle qu'en revanche, les forces de l'ordre n'hésitent pas à interpeller des Kanaks qui auraient participé à des barrages. Dans les deux cas, c'est illégal, mais pour les uns, c'est considéré comme légitime, et pour les autres, comme un délit.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Des petites nouvelles du climat, où en Inde, c'est à New Delhi que l'on étouffe. Ce 28 mai, une température record de 49,9 degrés Celsius a été enregistrée dans 2 stations météo de la banlieue de New Delhi. On est dans le nord-ouest du pays. Des températures similaires sont attendues pour les jours en ce moment, pour hier et aujourd'hui. Les autorités de la capitale ont mis en garde contre les pénuries d'eau. La ministre de l'eau, Atishi Marlena, en a d'ailleurs appelé à la responsabilité collective. Elle a annoncé que l'approvisionnement ne serait assuré qu'une fois par jour au lieu des 2 normaux dans de nombreuses régions. Les services météorologiques s'inquiètent également des conséquences de cette chaleur exceptionnelle sur la santé des nourrissons, des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le nord-ouest du pays est également brutalisé par les éléments, puisque les États du Bengale occidental et du Mizoram, tout comme le Bangladesh voisin, ont été frappés de plein fouet ce 26 mai par le cyclone Raimal. 38 personnes ont été tuées par les vents violents et les pluies torrentielles. Les scientifiques s'attendent à ce que les vagues de chaleur, tout comme les événements climatiques extrêmes, deviennent plus longues, plus fréquentes et intenses sous l'effet du changement climatique. On va parler polluants éternels et les PFAS avec les géants de la chimie, Arkema et Daikin, qui comparaissaient ce 28 mai devant le tribunal correctionnel de Lyon. C'est en effet la métropole lyonnaise qui souhaite qu'ils payent la réparation des dégâts provoqués par leur rejet des polluants éternels, les PFAS. Pendant plusieurs décennies, en effet, les usines qui sont implantées à Pierre-Bénite, au sud de Lyon, ont rejeté par tonnes ces fameux polluants éternels, polyfluoroalkylés, je ne sais plus ce que veut dire le S. Bref, ils ont rejeté ces PFAS dans le Rhône et aussi dans l'air de l'agglomération. Ces mêmes molécules ont été découvertes en quantité alarmante dans le sang des riverains et dans l'eau potable d'une trentaine des communes environnantes. Arkema et Daikin doivent donc leur rendez-vous de ce mardi avec la justice à la métropole de Lyon. La métropole de Lyon est gestionnaire du réseau potable, d'eau potable de la capitale Lyon et la collectivité écologiste a donc engagé un référé expertise pour établir l'existence d'un lien de cause entre l'activité de ces industriels et la contamination au perfluoré du fleuve. Si le tribunal lui donne raison, un expert sera nommé pour rendre une analyse indépendante sur les conséquences de cette pollution et particulièrement autour du champ captant, donc c'est, on parle de des eaux potables ici et des nappes phréatiques, le champ captant de Chasse-Ternay qui alimente près de 200 000 personnes en eau potable. L'expertise est rejetée jusque-là par les industriels. Eux affirment que l'abandon des substances chimiques incriminées d'ailleurs est à l'horizon. Voici ce que dit Maître Simon qui est l'avocate du chimiste. Le seul PFAS utilisé par Arkema n'est pas bioaccumulable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester dans le corps humain et sera mis à l'arrêt fin 2024. Alors déjà, apparemment, c'est une fausse promesse. En tout cas, c'est ce qu'a démontré le site d'investigation local Médiacité, qui a lui plutôt découvert que Arkema continuera bien à fabriquer des PFAS en 2025. Mais un autre argument à utiliser, parce que là on parle du futur, mais c'est surtout le passé pour l'instant qui est sur la table, et l'avocate utilise donc un autre argument pour instiller du doute dans cette expertise. Il serait, selon elle, donc impossible de déterminer les origines des PFAS qui sont décelées en raison de plusieurs sources sur place, la multiplicité des sources. Ils sont utilisés dans une très grande variété d'industries, telles que le textile, les poils, on connaît bien les téfales, les cosmétiques. On a, dans un rayon de 500 mètres, près de 30 sites identifiés comme producteurs, continue-t-elle. Et elle montre d'ailleurs au tribunal une carte plastifiée du sud de Lyon. C'est vrai qu'à Lyon, ils sont un petit peu chargés du côté de ce qui est de la chimie. Bien, malgré tout, les experts des services techniques de la métropole qui étaient aussi présents à l'audience, eux, ont manqué de s'étouffer en écoutant cette plaidoirie. Et pour cause, puisque ce sont les profils chimiques de ces produits nocifs qui permettent de tracer la pollution. Et pour eux, c'est clair, il y a une filiation directe entre la plateforme de Pierre-Bénite jusqu'à la nappe phréatique. Le caractère multisource est un écran de fumée. Les arrêtés préfectoraux visent spécifiquement Arkema et Daikin comme source d'épiphase, objecte ainsi l'avocat de la métropole de Lyon. Quand bien même il existerait d'autres sources de contamination, le juriste souligne que c'est le rôle d'un expert indépendant d'en déterminer l'origine, l'étendue et les causes, et non pas l'expert mandaté par les chimistes eux-mêmes. Pour y parvenir, d'ailleurs, l'avocat souhaite une analyse des rejets historiques, une information décisive qui, si elle était prise, pour déterminer l'ampleur de la pollution. On sait aujourd'hui que des quantités importantes de PFAS ont certainement été stockées dans les sédiments et la nappe alluviale et sont rejetées en aval dans le champ captant. Si cette expertise était concluante, elle pourrait permettre de faire appliquer le principe du pollueur-payeur. Les deux géants de la chimie devraient alors indemniser les dégâts sanitaires et environnementaux, mais aussi financer la dépollution des sites, voire peut-être arrêter leur rejet polluant. Début mai, Arkema a été déjà passé à la caisse aux États-Unis pour éviter un procès. Le groupe français a accepté de payer 109 millions de dollars pour compenser les dommages et dépolluer un de ses anciens sites. C'était dans l'état du New Jersey. Alors, est-ce que Arkema voudra à nouveau sortir son portefeuille ? On en saura plus le 30 juillet, puisque ça sera la date du délibéré.
Ah, les rembols, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
On termine ces nouvelles du monde avec un constat dans les colonnes du Monde sur l'état et l'augmentation dans le monde alarmante des restrictions à la liberté d'expression ou à la liberté d'association des personnes LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. Censure, arrestation, persécution, elles y sont confrontées donc d'une manière alarmante et en augmentation. C'est l'organisation non gouvernementale ILGA World qui l'affirme. Même parler de nos vies en public devient de plus en plus difficile dans un nombre croissant d'États. C'est un des auteurs de cette étude qui s'appelle Dia Reski Rohaizad. Donc un des auteurs du rapport de cette association qui est publié aujourd'hui et qui porte sur une période allant de janvier 2023 à avril 2024. Cette tendance, dit-il, est extrêmement préoccupante. L'histoire nous a montré à maintes reprises que les progrès réalisés par nos mouvements dans le monde entier peuvent être renversés par une élection. C'est la directrice exécutive de l'ONG, Julia Hert, qui s'exprime maintenant. Or, en 2024, la moitié de la population mondiale sera justement concernée par des élections. Les États tentent de restreindre l'espace civique des ONG, et en particulier toutes celles qui s'occupent de la diversité sexuelle et de genre. Au cours des 16 derniers mois, par exemple, la Jordanie, le Kyrgyzstan et l'Ouganda ont formellement mis en œuvre des dispositions légales contre la prétendue promotion de l'homosexualité, tandis qu'en Russie, on a qualifié le mouvement international LGBT d'extrémiste. Au moins 59 États membres de l'ONU, sur les 193 qu'elle compte, sont concernés d'ailleurs par cette répression. Le même nombre d'États a mis en place des obstacles juridiques à l'enregistrement, et au fonctionnement de toutes ces organisations qui défendent les droits des personnes LGBTQIA+. Un tiers des États membres de l'ONU criminalisent d'ailleurs les relations homosexuelles. La peine de mort, par exemple, appliquée dans 7 pays, Brunei, Mauritanie, Iran, Nigeria, Arabie Saoudite, Ouganda et Yémen. Pour ce qui est de l'Afghanistan, du Pakistan, du Qatar, de la Somalie ou des Émirats Arabes Unis, la peine capitale est possible, mais avec un cadre légal incertain. L'homosexualité est passible de la peine de mort dans 12 pays. Alors, parmi quelques avancées enregistrées qu'il faut quand même signaler, 4 États membres, à savoir l'Andorre, l'Estonie, la Grèce et la Slovénie, ont autorisé, eux, le mariage entre personnes du même genre, ce qui fait en tout 35 pays ayant adopté ce mariage homosexuel. Le Népal a, lui, pris une ordonnance provisoire pour faciliter de tels mariages. La Bolivie et la Lettonie ont légalisé les unions civiles, ainsi que plusieurs préfectures japonaises. Et enfin, 5 États membres, l'Allemagne, l'Équateur, l'Espagne, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, permettent désormais aux personnes de voir leur genre reflété dans leurs documents officiels sur la base de l'autodétermination, ce qui fait en tout 17 pays dans le monde qui autorisent une telle démarche. Enfin, en France, malgré les protections légales dont jouissent les personnes LGBTQIA+, eh bien, la LGBTphobie sévit encore. 266 agressions physiques ont été rapportées en 2023 à l'association SOS Homophobie, ce qui n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg. L'association s'alarme d'un climat délétère où les droits et les vies des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans, et en particulier les personnes trans d'ailleurs, sont constamment remis en question et menacés. SOS Homophobie dénonce enfin une inaction politique qui peine à mettre en place des politiques chiffrées et inclusives et qui participe au mal de vivre profond qui parcourt toute la communauté LGBTI. C'est ainsi que ça achève les nouvelles du monde, et on vous rappelle que le 22 juin, la première marche des fiertés est organisée justement au Vigan. Donc soyez nombreux et nombreuses pour venir apporter votre soutien à cette lutte. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, on écoute un petit morceau des Electric Six. Ça s'appelle Gay Bar.
Take you to a gay bar, gay bar, gay bar.
monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.